Je voudrais d'abord dire un petit mot sur la dimension interdisciplinaire du projet, puisqu'on a été aussi invité à parler de ça. C'est un projet qui est au carrefour entre ce qu'on appelle aujourd'hui les Digital Humanities, mais qui ne s'appelait pas comme ça quand on a commencé, qui n'existait pas en tant que discipline quand nous avons commencé. Et je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit. La traduction, les études de traduction, Translation Studies, ou théorie de la traduction, la sociologie, particulièrement la sociologie des usages, la littérature, puisqu'on travaille sur des textes littéraires et des objets littéraires, et puis, je pense que c'est une discipline aussi, la gestion de projet, gestion de projet web, bah oui, mais on en fait tous, mine de rien, et que ça s'apprend, et en fait, ça a pris une place de plus en plus importante dans notre travail, cette question de gestion de projet. Et donc, si c'est cette rencontre des disciplines qui nous a intéressés d'abord, évidemment, c'est aussi ce qui fait la difficulté du projet à se positionner par rapport au public. Et je dirais que c'est un défi caractéristique de toute entreprise interdisciplinaire en France, où on aime bien séparer les champs. Donc, nous allons vous parler d'un projet qui a maintenant 5 ans d'ancienneté, ce qui, dans le champ très jeune des humanités numériques, fait presque figure d'ancêtre. Et nous arrivons à cette étape où se fait sentir la nécessité d'un bilan, un bilan qu'on a entamé cet été à l'occasion de l'école d'été du DPN, et que nous reprenons ici partiellement pour le prolonger par l'enquête qui est en cours. Donc l'idée, l'espoir pour nous, c'est qu'en faisant partager ce récit du projet et nos expériences, et par les discussions qui, je l'espère, s'en suivront, on arrive à dégager aussi peut-être de tracer des débuts de bonnes pratiques qui puissent servir à d'autres projets du même type et rejoindre par là l'objectif du DPN. Alors la problématique interculturelle, qui intéresse aussi donc, le second projet présenté aujourd'hui, se concrétise dans notre cas par une problématique plutôt interlinguistique ou interalphabétique. Mais voilà, à l'origine du projet, dans l'idée qui a présidé à sa création, dans l'idéologie même qui est à l'origine du projet, il y a la défense du multilinguisme qui passe par la défense de la traduction. Et ça, bien sûr, ça s'inscrit dans une démarche interculturelle. Comme pour le caractère interdisciplinaire évoqué juste avant, ce souci de toutes les langues, de favoriser, d'autoriser toutes les langues sans donner la priorité à une ou deux langues les plus souvent utilisées. Cette approche donc non hiérarchisée des échanges culturels fait pour nous à la fois toute la beauté du projet et toute sa difficulté. Et je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas. Donc voilà, à la fois sur le plan éthique et sur le plan technique, on pourrait dire que, comme dans l'écriture à contrainte, de la contrainte, ici, est née la créativité, puisqu'en fait, c'est vraiment cette contrainte de vouloir rendre possible toutes les langues et sans hiérarchie entre les langues qui a suscité l'innovation technique de la plateforme. Donc ça, c'était... Voilà, je voulais dire ça en quelques mots d'introduction, ça me semblait important.
Et j'ajouterais que c'est bien finalement cette question des usages, mais je dirais aussi des non-usages, qui sont donc au cœur du réseau UDPN, qui nous ont poussés donc à l'automne dernier à entamer ce nouveau volet de notre recherche et de ce projet de TLM, et donc et dont on va présenter aujourd'hui quelques jalons. Donc c'est une enquête autour des usages sur laquelle nous collaborons avec donc Geneviève Vidal, Cécilia Jognot et Anne Gagnebien, qui sont ainsi que Ilaria Valotti, qui n'est pas là aujourd'hui, mais donc toutes trois sont présentes. Et au passage, j'en profite aussi pour vous présenter Joseph Faye, qui est notre développeur et qui donc collabore à TLHub depuis 2015. Et on est très très content qu'il puisse aussi voir TLHub en action, parce que jusqu'à présent, c'était peut-être beaucoup plus abstrait. Donc on va passer à une présentation rapide de TLHub.
Alors, je m'excuse par avance pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà un petit peu le projet et pour qui ce sera déjà un peu connu, mais je vais juste en redire quelques mots très rapidement. Le cadre initial, la Société européenne des auteurs, qui est une sorte de plateforme de projet, un think tank autour de la traduction et du multilinguisme entre Berlin et Paris. Donc c'est un cadre privé, mais sans but lucratif. Il y a toujours cette idée à l'origine des projets de la SEA que si un jour on devient bénéficiaire, ce qui a peu de chances d'arriver, mais bon, sait-on jamais, on reverserait cet argent à un fonds mondial pour la traduction. Donc il y avait quand même une idée derrière de défendre la traduction, même si c'était dans un cadre d'entreprise privée, de société privée. Et en même temps, c'est un projet de R&D, de recherche et développement assez typique, puisque ça a été développé dans le cadre de la Société européenne des auteurs, mais avec des gens qui étaient des chercheurs, par des gens qui étaient aussi des chercheurs au départ. Et donc on a gardé cette dimension recherche et développement encore aujourd'hui. Alors, trois objectifs ont été définis initialement. Le premier, qui est celui de promouvoir la traduction entre toutes les langues pour défendre la diversité linguistique. Alors, je cite Camille de Toledo, qui est un des concepteurs du projet et qui est un écrivain, qui écrit « La traduction est devenue un impératif culturel quotidien et nous devons rapidement prendre la responsabilité de parler sa langue, une entre les langues, dans laquelle aucune nation ne domine mais toute coopère. Plus qu'une simple reconnaissance de la diversité sociale et linguistique, penser la traduction en termes de poétique commune est une façon d'affronter les conflits et les tensions, et par là de mobiliser la littérature et les sciences humaines afin de faire porter leur voix au-delà du cadre de l'écrit. » Et je crois que c'est exactement ça, la poétique commune des langues, la poétique commune de la traduction. Donc ça se matérialise comment ? Ça se matérialise par, techniquement, le fait de potentiellement pouvoir supporter tous les alphabets possibles, avec les différents sens de lecture, etc. Donc, non seulement du point de vue des textes traduits, on peut importer des textes dans toutes les langues, mais aussi du point de vue de l'interface de la plateforme elle-même, puisqu'il y avait aussi dans l'idée du projet qui se voulait collaboratif à tous les niveaux, cette idée que les utilisateurs elles-mêmes pouvaient, s'ils le souhaitaient, traduire la plateforme assez facilement en leur langue et travailler dans leur langue. Grâce à un petit outil qui s'appelle Gallifreyan, que nous avaient légué les précédents développeurs. Et je dis en passant que Gallifreyan, c'est le nom d'une langue inventée et utilisée dans Doctor Who. Donc je trouve que ce n'est pas un hasard qu'on ait le nom d'une langue inventée pour dire toutes ces langues, enfin pour rendre possible l'accès à toutes ces langues. Donc ça, c'était le premier objectif. Voilà, traduire et travailler entre toutes les langues du monde, de différents endroits dans le monde. Ensuite, le deuxième objectif était d'encourager la traduction de la littérature et des sciences sociales, qui est généralement le parent pauvre de la traduction, à la fois en termes de quantité de production et aussi bien sûr en termes financiers. Il n'y a jamais d'argent pour faire traduire des choses, vous le savez vous-même qui êtes chercheur et qui souvent avez besoin, par exemple, de faire traduire vos articles. Mais pas en termes de capital symbolique. Évidemment, la traduction littéraire, par exemple de poésie, reste dotée d'un capital symbolique très élevé. Donc, il y avait cette idée-là. Et puis, l'idée aussi de développer une technologie innovante pour la traduction humaine, puisque c'était le moment, en fait, où le projet a commencé autour de 2012. Ça faisait déjà quelques années, mais les interrogations sur... Enfin, les développements et les innovations en traduction automatique explosaient à ce moment-là. Et donc, comme il y a eu pour le livre numérique une peur du milieu littéraire de voir le livre numérique remplacer le livre papier, il y a eu une peur de voir la traduction automatique remplacer la traduction humaine. Et donc, ça s'inscrit dans ce contexte de développement de la traduction automatique et d'explosion des travaux en intelligence artificielle. Et encore aujourd'hui, évidemment, on est bien plus loin sur ces questions-là. Donc nous, c'était l'idée des premiers concepteurs de la plateforme, hein, on n'était pas encore dans le projet, c'était de ne pas opposer la technologie et l'humain, les progrès de la traduction automatique et la qualité, le qualitatif souhaité par la traduction humaine, mais au contraire d'essayer de les associer. Voilà, donc un petit mot peut-être sur l'historique du projet.
Oui, pour rappeler quelques moments forts et pour aussi vous donner une idée de la temporalité dans laquelle ça s'inscrit tout ça. Puisque Camille et moi, on nous ne sommes pas des... Enfin, on n'était pas là au tout début, on a rejoint le projet en cours de route, mais donc, il y a une première phase de programmation qui remonte à novembre 2011 et qui dure quelques mois, donc à cheval sur 2011 et 2012. Donc où les membres de la Société européenne des auteurs collaborent avec un prestataire technique qui développe, qui écrit véritablement l'outil et met en place le premier squelette de TLHub. Et donc ça, c'est au tout début de la V1, donc il y a maintenant 5 ans, voici à quoi ressemblaient
l'interface.
On appelle ça comment, des wireframes, dans le jargon des développeurs, donc les wireframes,
des maquettes
en bon français, de ce à quoi ressemblaient les différentes pages du site en fait. Donc, et donc on voit là dans les bulles oranges l'explication donc à quoi correspondait chaque... Là c'est une capture d'écran de la page de l'atelier, donc le bureau de chaque utilisateur. Et donc, ces différents projets qui comme des espèces de briques qui s'entassent les unes sur les autres. Donc enfin, vous ne le savez peut-être pas déjà, mais pour les personnes qui ont utilisé TLHub ou sont un peu familières de l'outil, on voit que dès 2011, en fait, l'essentiel de l'outil était déjà pensé ou écrit, et pas tant de choses que ça, finalement, ont changé.
On voit déjà dans les couleurs, par exemple, des projets partagés qui sont en jaune et des projets individuels qui sont en vert. La possibilité de faire les deux, et on voit que les projets en vert dominent largement par rapport au projet partagé.
Et donc peut-être pour vraiment dire un mot très rapide pour ceux qui ne se sont jamais connectés sur la plateforme, mais le principe est donc chaque personne physique a un compte. Sur son compte, on peut importer des textes, on peut traduire des textes et on peut créer des projets. En gros, pour dire ça très rapidement, on peut tout à fait travailler sur TLHub de manière autonome et solitaire. Et c'est d'ailleurs pas du tout mal vu, mais le versant collaboratif, en fait, c'est plutôt un plus. Mais le travail en solitaire, de traduction en solitaire, c'est-à-dire une personne qui a envie de s'essayer à traduire un texte, ça c'est un cas d'usage tout à fait imaginé, enfin qui faisait partie de ce qui avait été conçu au tout début. Donc et je précise également qu'un des principes de base de TLHub est que lorsqu'un texte est importé dans l'outil, la machine segmente automatiquement le texte à traduire. Donc le texte original, entre guillemets, donc en langue source, se trouve ici à gauche. La traduction est à droite.
Ce qui peut être inversé selon les langues.
Exactement. Donc selon son travail, si on travaille d'une traduction de l'arabe vers le français, on peut imaginer que le texte arabe est à droite et la traduction à gauche. Et donc ici, le texte a été découpé en paragraphes et le paragraphe finalement était le mode de segmentation disons standard. Au-delà d'un certain nombre de signes, la machine découpait, parce que donc, le segment est limité à un nombre précis de caractères. Et on reviendra sur cette question de la segmentation un peu plus tard. Mais ça, c'était simplement pour vous dire comment marche un peu l'outil. Et donc, à un segment correspond une traduction. Et on peut évidemment faire plusieurs versions d'une traduction. Elles sont toutes enregistrées par l'outil. Et donc, en 2012, on travaille à... Et c'est à ce moment-là que Camille arrive sur le projet. Et moi, à la fin de l'année 2012, je me greffe. Une V2 est lancée. Et il s'agit, à l'occasion de la réflexion autour de la V2, de penser un certain nombre de fonctionnalités sociales. La possibilité de créer des groupes, la possibilité de chatter, discuter et annoter un texte de manière un petit peu plus précise. Tout ça, c'est imaginé à ce moment-là. Et on a également, à cet instant-là précis, dans la vie de TLUB, réfléchi au fait de rendre ou non TLUB payant. On a imaginé rendre la plateforme payante via, par exemple, un modèle freemium de type revue.org, par exemple, de ce qui est pratiqué par revue.org, puisque la TLUB, tel qu'il existait à ce moment-là et tel qu'il existe encore aujourd'hui, est complètement gratuit. Il n'y a absolument aucun coût. Hein. Il suffit d'avoir un ordinateur et n'importe qui peut se connecter. Donc on avait envisagé différents modes d'abonnement, une somme évidemment assez modique pour des individus. On avait imaginé que des institutions pourraient s'abonner. Une université paierait un abonnement, par exemple. Ça n'a finalement pas été adopté ni mis en place, puisque c'était extrêmement complexe de monétiser la plateforme. En tout cas, à l'époque, c'est ce qu'on nous avait dit. Et il fallait... Pour rendre un outil payant, il fallait qu'il soit très performant. Est-ce que ça n'était pas le cas à ce moment-là. Donc, très rapidement, la version V2 donc de TLUB est sortie en 2013. Et c'est à ce moment-là que de gros efforts ont été faits au niveau de l'esthétique et de l'UX, donc la user experience de l'interface, le design. Donc, ça a été, de gros efforts ont été faits. On nous a d'ailleurs dit que l'esthétique du site était plutôt plaisante et que c'était un gros point fort. Et par ailleurs, on a aussi amélioré deux, trois choses sur la question du versionnage du texte. Un mot sur les utilisateurs. Donc, qui, à ce moment-là, donc en 2012, qui utilisait TLUB, vous donner une idée un peu de la fréquentation de la plateforme, on avait des masters de traduction littéraire, disons, un master de traduction à l'INALCO, également un groupe de recherche à l'ENS Lyon, des écrivains et étudiants qui, dans leur coin, disons, utilisaient TLUB, une école de littérature, l'école de littérature de Lagrasse, qui avait monté un atelier arabe, anglais, français, l'association britannique Literature Across Frontiers, qui avait également monté des différentes collaborations entre différentes langues. Et puis, à partir de 2014, donc ça c'est un petit peu postérieur, mais on a eu un gros projet de collaboratif aux États-Unis. Donc, 6 universités américaines ont collaboré pour travailler à une retraduction des leçons américaines d'Italo Calvino, donc une retraduction de l'italien vers l'anglais. On a également eu... à ce moment-là, une équipe en FLE, en français langues étrangères, à l'ENS Lyon, en partenariat avec UCL en Angleterre. Il y avait un LabEx art H2H à Paris 8 sur les traductions collectives qui s'est à ce moment-là approprié l'outil et qui a travaillé dessus. Et également toujours des ateliers et des... à Arles, par exemple, pour les assises de la traduction, ou bien des festivals. On a fait des ateliers dans des festivals littéraires.
Avec des classes.
Avec des classes.
Le festival hors limite, c'était auprès de ce
dans le secondaire, oui. Et...
Les cas d'usage.
Oui. Les cas d'usage, c'est l'occasion de vous revenir, donc, de revenir dessus et de manière illustrée, pour résumer rapidement... les cas d'usage qui avaient été imaginés et donc mis en image pour expliquer un peu comment on pouvait utiliser TLUB. Donc,
ça, c'est le premier.
Voilà, ça, c'est le premier cas d'usage. Donc, on voit qu'il y a deux personnes. On imaginait un auteur et son traducteur qui travaillent ensemble. Ça, c'était le cas numéro un. Le second cas, c'est donc la pédagogie de la traduction et des langues. On voit très bien, il y a un enseignant et... des élèves ou étudiants en fonction du niveau connectés qui travaillent. Et donc, chaque étudiant sur son écran fait sa propre traduction. Donc, c'est absolument pas incompatible. Chacun travaille à sa traduction et on peut ensuite comparer, regarder les différentes propositions des unes, des uns et des autres. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, donc, c'est un groupe de recherche entre plusieurs universités, par exemple. Donc, chaque chercheur, traducteur est dans un pays ou une université différente et travaille collectivement et entre plusieurs langues. Donc ça, on pourrait imaginer un projet, plusieurs chercheurs travaillant dans différentes langues qui veulent travailler à différentes traductions, chacun dans leur langue, d'un même texte. Quatrième cas, une traduction multilingue et collaborative. Non, en fait, c'était ça, le cas de la traduction multilingue et collaborative. Donc, on a un texte à traduire et chacun propose sa traduction. Ça, c'était les cas envisagés et pensés. Et on reviendra, évidemment, puisque les usages sont au cœur de cette séance, on reviendra aussi sur ce qui a pu nous orienter dans cette direction et pourquoi aujourd'hui on s'interroge à nouveau sur ces usages. Et un mot donc pour la phase actuelle de TLHub, où on en est aujourd'hui. Donc TLHub a rejoint le réseau UDPN, donc on a concomitamment on a quitté notre prestataire technique et on a recruté Joseph qui est ici avec nous aujourd'hui, qui est développeur développeur indépendant et qui travaille sur des projets en humanité numérique et qui depuis donc maintenant presque 2 ans a complètement repris, migré la plateforme, redéployé et a pu nous rendre totalement autonome finalement.
Et ce que je voudrais juste dire sur Joseph qui est important, je crois, c'est que tu as une thèse en littérature. Donc voilà, Joseph a aussi une connaissance des problématiques littéraires. Et ça a été très précieux pour nous pour comprendre. Enfin, il comprend beaucoup mieux, je pense, que d'autres. Et puis tu as une pratique aussi de la traduction, étant anglophone dans un pays francophone, une pratique de chaque instant de la traduction. Et donc voilà, tu avais aussi une notion de ça. Donc... Voilà, Joseph, du coup, s'est occupé de faire la migration du serveur et le redéploiement, ce qui a été un travail énorme pour se rendre indépendant, en fait, d'un prestataire. Et ça, c'est, je crois, une bonne pratique à garder en tête, d'avoir quelqu'un qui accompagne un projet tout du long et qui le rende autonome. Et puis, a développé de nouvelles fonctionnalités, par exemple, un module de chat. On a travaillé ensemble aussi, dans la perspective UDPN, sur des statistiques d'usage, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun recul sur ce qui se passait, sur les utilisateurs, etc., que c'était vraiment important qu'on commence à y voir un peu plus clair. Donc, ça a contribué aussi, de manière plus générale, à la réorientation du projet en vue d'un public de chercheurs, ce qui était le cas là. Et c'est comme ça qu'on en est venu petit à petit à l'idée de l'enquête, c'est-à-dire à la suite du bilan, on s'est dit qu'il fallait maintenant essayer d'en tirer quelque chose sur un plan plus général, plus théorique peut-être, ce à quoi devait servir cette enquête. Donc, quelques perspectives et problématiques très rapidement avant de vous présenter l'enquête. Donc, TLHub est un projet qui se veut innovant et qui répond à une vision partagée par les différentes personnes à l'origine de la société européenne et de la plateforme elle-même. Donc, cette vision est une réaction qui s'inscrit dans un contexte, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu intellectuel, idéologique et technique, qui est celui de l'émergence de la traduction automatique, enfin l'essor, et le besoin de réaffirmer l'importance de la traduction humaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a fallu très souvent rappeler. En fait, TLHub ne fournit pas de traduction, c'est pas un outil c'est un outil qui aide à la traduction. C'est pas exactement le même, c'est pas exactement la même chose. C'était un espace de travail, c'est un espace de travail, un outil, et dans une moindre mesure, ça se voulait aussi un réseau social. Donc, une des questions qu'on s'est posée, c'est une des problématiques qui est apparue assez vite. Est-ce qu'on peut dire que c'est une innovation qui ne répond à aucune demande ou à aucun besoin? On s'est à peu près rendu compte de ça au bout d'un moment. Enfin, pour le dire de manière un peu brutale, plus spécifiquement, c'était la question des publics. D'abord, à qui on s'adresse? Est-ce qu'on sait vraiment à qui on s'adresse? Tous ces gens qui sont cachés derrière une adresse email comment savoir concrètement qui ils sont. Alors là, pour notre enquête, on a eu du mal, par exemple, à avoir des contacts avec les utilisateurs, puisqu'on ne connaissait que ceux avec qui on avait fait des projets pilotes, mais finalement les autres, même si on leur écrit, on n'a pas forcément de réponse, il y a quelque chose de très anonyme. Donc comment orienter un projet d'humanité numérique quand le public est relativement inconnu ? TLUB s'est construit en dehors du champ universitaire, mais il intéressait aussi des chercheurs. Il a été pensé, en fait, pour différentes communautés, au carrefour entre différentes communautés. Il a été pensé par un écrivain et une chercheuse pour une communauté de traducteurs. Donc vous voyez que déjà, dans ce noyau initial, il y avait un questionnement. Et donc ça a été tout de suite une pensée récurrente. Identifier notre public, aller chercher peut-être un public spécifique, par exemple un des concepteurs initiaux de la plateforme, Samuel Petit, qui est éditeur chez Actia Luna, un éditeur d'applications numériques littéraires, nous avait recommandé d'aller chercher par exemple les traducteurs de manga, puisque c'était une communauté très active sur le web. Alors c'est tout autre chose, parce que du coup ça voulait dire gestion de l'image, etc. Mais voilà, il y avait cette interrogation de comment faire pour à la fois soit faire vivre la plateforme avec une communauté active, soit essayer d'imposer à une communauté qui n'a pas ces usages-là ce nouvel usage de la plateforme. Donc ça s'est un peu traduit aussi autour de cette différence entre des usages pensés ou imaginés, qui sont ceux que nous vous avons présentés, et des usages réels dont on s'est aperçu pendant l'expérience, pendant les différentes années, qu'il y avait évidemment un petit décalage entre les deux. Par exemple, sur la question du public et du privé, on avait peut-être une vision un petit peu utopique de projets qui seraient partagés entre des chercheurs ou entre des traducteurs, par exemple sur des textes classiques qui méritaient discussion ou qui méritaient échange. Finalement, tous les projets, ou presque, étaient privés, ont été mis privés. Alors c'était aussi une crainte des éditeurs par rapport à la plateforme, quels sont les droits, comment les textes sont-ils protégés. Donc ça a été très vite mis en place, possibilité de fermer, de protéger, d'avoir un projet privé, sans récupération des données par Google ou autre Dropbox et compagnie. Mais une traduction privée, ça veut dire aussi qu'il y a cette notion d'arrière-boutique du traducteur, comme l'arrière-boutique de l'écrivain, qui ne rime pas forcément avec transparence. Les traducteurs nous ont dit plusieurs fois ne pas vouloir montrer en fait les différentes versions, les errances de leur travail. Même aux autres membres du projet, en fait. Donc le tout collaboratif se s'avérait peut-être trop collaboratif. Et puis, évidemment, on a eu aussi des problèmes autour des faiblesses et des limites techniques de l'outil, et notamment cette notion de segment qui était, en fait, au départ, c'était un des éléments innovants de la plateforme. On se disait comment gérer l'alignement de texte entre des textes dans différentes langues, comment faire pour qu'un outil informatique puisse dire exactement que tel passage égale dans telle autre langue tel passage. Donc donner un identifiant numérique, c'était pour ça qu'avait été créée la notion de segment, mais il aurait presque fallu que ce soit invisible, c'est-à-dire que les utilisateurs ne le voient pas, que ce soit que pour la machine, parce que du coup, la segmentation a beaucoup perturbé les utilisateurs, et ça a même constitué un obstacle pour certains. Par exemple, imaginez ceux qui travaillent sur la poésie ou le théâtre, le fait d'avoir des espaces ajoutés qui ne sont pas des espaces de l'auteur, c'était vite perturbant. Donc on a eu très vite des retours là-dessus, et on s'est rendu compte aussi qu'à partir du moment où on avait misé sur ce choix de la segmentation, et ça c'est un autre point, je dirais un peu plus général, je crois, des outils, des projets d'humanité numérique, ça rendait difficile l'interopérabilité des données et le fait de greffer d'autres outils, en fait, parce que je crois qu'on a tous cette expérience-là de « Ah, mais il existe tel outil qui peut être intéressant, est-ce qu'on pourrait pas essayer de le greffer ?» Et en fait, ça s'est avéré assez compliqué d'agréger des outils existants avec ce système-là qui était propre, qui était ad hoc. Voilà. Donc, du coup, c'est posé la question de l'avenir de l'outil, de sa pérennité. C'est là qu'on en est venu à cette idée de faire un bilan et peut-être de clôturer, puisqu'évidemment, on était d'abord donc, dans une perspective de... Enfin, on a alterné aussi entre un temps long et un temps court. Du point de vue des usages du numérique, on est dans un temps court. Les choses vont très vite, l'innovation va très vite, les gens changent leurs habitudes en fonction des outils qui arrivent. Et en même temps, du point de vue de la recherche et de l'expérimentation, ça peut être un temps long. Et c'est comme si là, tout d'un coup, il y avait eu une incompatibilité entre ces deux temporalités. C'est ça qui a débouché sur cette idée de transformer un petit peu les choses et de mener cette enquête. je vois que ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, je sais plus combien de temps on avait, mais on... voilà.
Donc...
D'accord, on a encore, mais c'est ça, on a encore.
Donc, c'est bon. L'enquête, donc on est passé donc de l'idée d'une rénovation de l'outil qui aurait été coûteuse et en plus pas nécessairement profitable et pas non plus en adéquation avec nos besoins et qui par ailleurs n'aurait pas vraiment répondu à la problématique des usages. Donc de cette perspective-là, on est passé à une approche sociologique, donc accompagnée Geneviève et son équipe, pour mieux comprendre l'existant et mieux comprendre son appropriation ou non par des usagers réels. Donc on a décidé de partir à la rencontre de quelques usagers, de les écouter, et on a par là renoué avec une dimension originelle du projet, qui était une dimension vraiment de recherche, donc de se nourrir aussi d'une sociologie des usages avec laquelle on n'était pas nécessairement particulièrement familiarisé, mais disons qu'on avance en apprenant et en se nourrissant de ce qu'on trouve aussi. Donc on a lancé une enquête sur laquelle on travaille depuis 6 mois environ. Rapidement, le contexte et part d'un constat d'un manque d'utilisateurs, et on a décidé de faire un bilan rétrospectif de cette expérience pour nourrir notre réflexion à toutes les deux sur la traduction littéraire à l'ère numérique, avec un point d'insistance particulière sur cette question de la traduction collaborative ou collective. Donc, sur le plan sociologique, on peut dire qu'on perçoit un décalage entre des usages réels en traduction numérique et la conception de l'outil TLHub lui-même, qui s'est fait, on l'a déjà dit, cette conception s'est développée sur des usages davantage pensés ou fantasmés que réels. Sur le plan des humanités numériques, le questionnement s'inscrit dans le champ de recherche sur les technologies innovantes et leur rapport aux usages. Donc, est-ce que ces technologies doivent générer de nouveaux usages, ou est-ce qu'il faut qu'elles s'adaptent aux usages existants? Bon, la pérennité, on en a parlé, mais c'est vrai que la question à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est comment est-ce que de tels projets vieillissent et comment est-ce qu'on peut les faire durer? Est-ce qu'il est bon d'étendre leur durée de vie, et est-ce que la pérennité d'un pareil projet doit être un objectif en soi? C'est vraiment des questions auxquelles on n'a pas nécessairement des réponses, mais qui sont indiscutablement là dans notre travail actuel sur TLHub. Et au fond, ce qui a aussi stimulé depuis le début notre réflexion à toutes les deux autour de TLHub et des pratiques de traduction contemporaine impliquant le numérique, c'est la question d'une redéfinition possible de la traduction. Qu'est-ce que le numérique apporte, modifie, comment il influe sur les comportements des utilisateurs? Est-ce qu'il s'agit seulement d'outils qui viennent en support, qui accompagnent des actions déjà pratiquées? Est-ce que ce sont des gadgets qui ne changent rien fondamentalement en profondeur aux usages? L'étendue même de la notion de traduction, est-ce qu'elle n'est pas affectée par le recours à la machine dans le processus traductif? Et ce sont en fait les mêmes questionnements qui parcourent le champ des études sur la littérature numérique, pour celles et ceux qui connaissent un peu. Quel est le rôle ou la profondeur du rôle joué par la machine dans une pratique qui semble indissociable de la patte de l'homme? Donc, je précise dernièrement, avant de passer la parole à Camille, que la question des usages, pour revenir un peu en arrière ou dézoomer, elle s'est posée tout au long du travail de développement de TLHub, mais de manière très très différente de l'approche de Geneviève et de Cécilia Dan, qui est donc une approche de sociologie des usages. Donc, et qu'on n'avait pas du tout mobilisé dans notre travail. Donc, au fil des versions, on a été en contact avec des utilisateurs, des usagers, on avait recueilli leurs réactions, leurs questions, leurs suggestions, mais de manière complètement anarchique. Et je dirais qu'aujourd'hui, mieux armé, où on a une, disons, affiné, on est plus, disons, plus agile aussi, pour reprendre un terme de développement, et on est du coup prête à formaliser plutôt des bonnes pratiques ou des enseignements à partir de ce qu'on va donc recueillir du côté des utilisateurs et du côté des collaborateurs.
Voilà, donc les objectifs de l'enquête étaient, il y en avait plusieurs, d'abord comprendre pourquoi Tialog n'avait pas pris. Alors il y a évidemment la question du budget, on n'a jamais assez de budget et on aimerait toujours avoir beaucoup plus de budget. On a compris d'ailleurs lors d'un entretien avec Jérôme Andrieux, le premier développeur de Tialog, il nous a dit une chose très intéressante. Il faut compter 4 à 5 fois le budget du développement initial d'une plateforme pour son entretien.
Sa maintenance.
Nous, on avait mis tout notre argent dans le développement initial de la plateforme. Bon, c'est peut-être exagéré, j'en sais rien, mais je pense aussi que les universitaires, ou en tout cas moi, j'étais pas du tout formée à ces questions-là. J'en avais aucune idée, et que du coup, si on avait su ça, on aurait peut-être fait d'autres choix. Voilà. Et bon, évidemment, on est toujours aussi soumis aux subventions, etc. Mais en dehors de ça, pourquoi Tialog n'avait pas pris alors qu'il y avait quand même des outils qui étaient utilisables et qui avaient été mis en place, tels que l'alignement de texte, la possibilité de travailler, etc. Il y avait quand même des choses. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, quels sont les outils qu'utilisent les gens? Quels sont les usages réels en traduction? Donc, si ce n'est pas celui-là, c'est quoi? Quelles sont les habitudes? Quelles sont les attentes des utilisateurs? Mieux connaître l'expérience des utilisateurs sur la plateforme. Qu'ont-ils fait sur Tialog? Est-ce qu'ils y sont retournés? Combien de temps ils y ont passé? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à y faire? Et donc extraire de cette expérience des préconisations pour éventuellement un autre outil à concevoir ou à minima des enseignements à tirer. Alors on avait quelques hypothèses de départ, je vous en cite quelques-unes en vrac. Il existe d'autres outils permettant de faire la même chose que Tialog, mais plus performants, même s'ils n'ont pas toutes les fonctionnalités. Et on pense évidemment à Google Doc, qui était l'outil collaboratif qui émergeait à ce moment-là et qui a explosé entre-temps. Un trop grand nombre de fonctionnalités qui sont exigées par les traducteurs ne sont pas proposées par Tialog, mais Tialog en propose d'autres qui ne sont pas nécessairement requises par les traducteurs. Le travail collaboratif prend d'autres formes que celles permises par la dématérialisation et le numérique. Et donc finalement, l'idée que cet environnement de travail constituait plus une contrainte par rapport à des habitudes qu'une facilitation, notamment le fait que la plateforme était close, et, bon, voilà, un peu fermée, quoi. Donc voilà, on est parti de ce décalage, encore une fois, entre les usages réels et les usages imaginés. Donc on a mis en place un protocole d'entretien qui a été retravaillé alors, peut-être par Geneviève, Anne, Cécilia et Laria. Peut-être dire un petit mot de ça.
Je pense que vous allez en dire quelques mots, mais pour nous, ça a été vraiment très très intéressant puisqu'on a, avec Camille, on avait listé en vrac, puis essayé de structurer ça, vraiment ce qu'on voulait connaître, savoir. On a envoyé notre protocole ou cet embryon de guide d'entretien à Geneviève, Cécilia, Hilaria et Anne, qui nous ont ensuite renvoyé un guide qui avait sensiblement réduit. Nous, on avait, je sais pas, une trentaine de questions. On s'est retrouvés avec 10 questions. Donc Camille avait déjà une petite expérience en matière d'entretien sociologique, moi aucune, mais ça a été très 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 enrichissant et surprenant aussi de voir comment, élaborant ce guide de manière collective et collaborative, on a, je crois, vraiment compris ce qu'était une question ouverte et pourquoi une question ouverte était très 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 précieuse. Et on a aussi, je pense que c'était pas une distinction qu'on faisait intuitivement, mais qu'un guide d'entretien n'est pas un questionnaire. Et on avait, c'est vrai, plein de questions comme des cases à cocher où on voulait connaître des choses très très factuelles. Or, c'est évidemment pas du tout comme ça que ça s'est déroulé. Donc, passe la parole.